À Granville, en 1836. Voici juin. Le moineau raille dans les champs les amoureux. Le rossignol de muraille chante dans son nid pierreux. Les herbes et les branchages, pleins de soupirs et d'abois, font de charmants rabâchages dans la profondeur des bois. La grive et la tourterelle prolongent dans les nids sourds la ravissante querelle des baisers et des amours. Sous les treilles de la plaine, dans l'antre où verdit l'osier, Virgile enivre Silène et Rabelais grand gousier. Ô Virgile, verse à boire, ô Rabelais, la forêt est une gloire, la caverne est un palais. Il n'est pas de lac ni d'île qui ne nous prenne au gluau, qui n'improvise une idylle ou qui ne chante un duo. Car l'amour chasse au bocage et l'amour pêche au ruisseau, car les belles sont les cages dont nos cœurs sont les oiseaux. De la source, sa cuvette, la fleur, faisant son miroir, dit bonjour à la fauvette et dit au hibou bonsoir. Le toit espère la gerbe, peint d'abord et chaume après. La croupe du bœuf dans l'herbe semble un mont dans les forêts. L'étang rit à la macreuse, le pré rit au loriot, pendant que l'ornière creuse gronde le lourd chariot. L'or fleurit en giroflée, l'ancien zéphyr fabuleux souffle avec sa joue enflée au fond des nuages bleus. Jersey, sur l'onde docile, se drape d'un beau ciel pur et prend des airs de Sicile dans un grand haillon d'azur. Partout l'églogue est écrite, même en la froide Albion, l'air est plein de théocrites, levant ses parkers billons, et redit mélancolique la chanson que fredonna Moschus, grillon bucolique de la cheminée Etna. L'hiver tous, vieux phtisique, et s'en va, la brume fond, les vagues font la musique des vers que les arbres font. Toute la nature sombre verse un mystérieux jour, l'âme qui rêve a plus d'ombre et la fleur a plus d'amour. L'herbe éclate en pâquerette. Les parfums qu'on croit muets comptent les peines secrètes des liserons aux bleuets. Les petites ailes blanches sur les os et les sillons s'abattent en avalanche. Il neige des papillons. Et sur la mer qui reflète l'aube au sourire d'émail, la bruyère violette met au vieux mont un camail. Afin qu'il puisse, à l'abîme qu'il contient et qu'il bénit, dire sa messe sublime, sous sa mitre de granit. La coccinelle. Elle me dit, quelque chose me tourmente, et j'aperçus son cou de neige et dessus un petit insecte rose. J'aurais dû, mais sage ou fou, à 16 ans, on est farouche, voir le baiser sur sa bouche plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage, d'eau rose et tachée de noir. Les fauvettes, pour nous voir, se penchaient dans le feuillage. Sa bouche fraîche était là. Je me courbai sur la belle et je pris la coccinelle. Mais le baiser s'envola. « Fils, apprends comment on me nomme, dit l'insecte du ciel bleu. Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme. » Vers 1820. Denise, ton mari, notre vieux pédagogue, se promène. Il s'en va troubler la fraîche églogue du bel adolescent Avril dans la forêt. Tout tremble et tout devient pédant dès qu'il paraît. L'âne bougonne un thème au bœuf son camarade. Le vent fait sa tartine et l'arbre sa tirade. L'églantier verdissant, doux garçon qui grandit, déclame le récit de Théramène et dit « Son front large est armé de cornes menaçantes. Denise, cependant, tu rêves et tu chantes, à l'âge où l'innocence ouvre sa vague fleur, et d'un œil ignorant, sans joie et sans douleur, sans crainte et sans désir, tu vois, à l'heure où rentre l'étudiant en classe et le docteur dans l'antre, venir à toi, montant ensemble l'escalier, l'ennui maître d'école et l'amour écolier. À Monsieur Froment Meurice. Nous sommes frères, la fleur par deux arts peut être faite. Le poète est ciseleur, le ciseleur est poète. Poètes ou ciseleurs, par nous l'esprit se révèle. Nous rendons les bons meilleurs, tu rends la beauté plus belle. Sur son bras ou sur son cou, tu fais de tes rêveries, statuaire du bijou, des palais de pierreries. Ne dis pas, mon art n'est rien. Sors de la route tracée, ouvrier magicien, et mêle alors la pensée. Tous les penseurs, sans chercher, qui finit ou qui commence, sculptent le même rocher. Ce rocher, c'est l'art immense. Michel-Ange, grand vieillard, en large bloc qu'il nous jette, le fait jaillir au hasard, Benvenuto nous l'émiette. Et devant l'art infini, dont jamais la loi ne change, la miette de Cellini vaut le bloc de Michel-Ange. Tout est grand, sombre ou merveille, tout feu qui brille est une âme, l'étoile vaut le soleil, l'étincelle vaut la flamme. Les oiseaux. Je rêvais dans un grand cimetière désert, de mon âme et des morts j'écoutais le concert, parmi les fleurs de l'herbe et les croix de la tombe. Dieu veut que ce qui naît sorte de ce qui tombe, et l'ombre m'emplissait. Autour de moi, nombreux, gais, sans avoir souci de mon front ténébreux, dans ce champ lit fatal de la sieste dernière, des moineaux francs faisaient l'école buissonnière. C'était l'éternité que taquine l'instant. Ils allaient et venaient, chantant, volant, sautant, et gratignant la mort de leurs griffes pointues, lissant leur bec au nez lugubre des statues, becquetant les tombeaux, ces grains mystérieux. Je pris ces tapageurs, ailés au sérieux, je criai « Paix aux morts, vous êtes des harpies !»« Nous sommes des moineaux, me dirent ces impies. « Silence, allez-vous-en, repris-je peu clément. » Ils s'enfuirent, j'étais le plus fort. Seulement l'un d'eux resta derrière, et pour toute musique dressa la queue et dit « Quel est ce vieux classique ?» Comme ils s'en allaient tous, furieux, maugréant, criant, et regardant de travers le géant, un houx noir qui songeait près d'une tombe, un sage m'arrêta brusquement par la manche au passage et me dit « Ces oiseaux sont dans leur fonction. Laisse-les, nous avons besoin de ce rayon. Dieu les envoie, ils font vivre le cimetière. Hommes, ils sont la gaieté de la nature entière. Ils prennent son murmure au ruisseau, sa clarté à l'astre, son sourire au matin enchanté. Partout où rit un sage, ils lui prennent sa joie. Et nous l'apporte l'ombre en les voyant flamboie. Ils emplissent leur bec des cris des écoliers, à travers l'homme et l'herbe et l'onde et les alliés. Ils vont pillant la joie en l'univers immense, ils ont cette raison qui te semble démence. Ils ont pitié de nous qui loin d'eux languissons, et lorsqu'ils sont bien pleins de jeux et de chansons, déglogues de baisers de tous les commérages que les nids en avril font sous les verts ombrages, ils accourent, joyeux, charmants, légers, bruyants, nous jeter tout cela dans nos trous effrayants. Et viennent des palais, des bois, de la chaumière, vider dans notre nuit toute cette lumière. Quand mai nous les ramène, ô songeurs, nous disons, les voilà, tous s'émeut, pierre, tertre, gazon. Le moindre arbrisseau parle et l'herbe est en extase. Le saule pleureur chante en achevant sa phrase. Il confesse les ifs, devenus babillards, il jase de la vie avec les corbillards. Des linceuls trop pompeux, ils décrochent la graffe, ils se moquent du marbre, ils savent l'orthographe. Et moi qui suis ici le vieux chardon boudeur, devant qui le mensonge étale sa laideur, et ne se gêne pas me traitant comme un hôte, je trouve juste ami qu'en lisant à voix haute l'épitaphe où le mort est toujours bon et beau, il fasse éclater de rire le tombeau. Vieille chanson du jeune temps. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire. Après, la rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et roses les rossignols. Moi, 16 ans et l'air morose. Elle, 20, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient roses et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait, fraîche et creuse, sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. « Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. » À un poète aveugle. Merci, poète. Au seuil de mes lares pieux, comme un hôte divin, tu viens et te dévoiles, et l'auréole d'or de tes vers radieux brille autour de mon nom comme un cercle d'étoiles. Chante, Milton chantait, chante, Homère a chanté. Le poète des sens perce la triste brume. L'aveugle voit dans l'ombre un monde de clarté. Quand l'œil du corps s'éteint, l'œil de l'esprit s'allume. Elle était déchaussée, elle était décoiffée. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. Et je lui dis « Veux-tu, c'est le mois où l'on aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?» Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre alors devint pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois! Comme l'eau caressait doucement le rivage, je vis venir à moi dans les grands roseaux verts la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. La fête chez Thérèse. La chose fut exquise et fort bien ordonnée. C'était au mois d'avril et dans une journée si douce qu'on eût dit qu'amour l'eût faite exprès. Thérèse, la duchesse à qui je donnerais si j'étais roi Paris, si j'étais Dieu le monde, quand elle ne serait que Thérèse la blonde. Cette belle Thérèse, aux yeux de diamant, nous avait conviés dans son jardin charmant. On était peu nombreux. Le choix faisait la fête. Nous étions tous ensemble et chacun tête à tête. Des couples pas à pas erraient de tous côtés. C'étaient les fiers seigneurs et les rares beautés. Les Amintas rêvant auprès d'Éléonore, les marquises riant avec les Monsignors. Et l'on voyait rôder dans les grands escaliers un nain qui dérobait leur bourse aux cavaliers. À midi, le spectacle avec la mélodie. Pourquoi jouer Plautus la nuit? La comédie est une belle fille et rit mieux au grand jour. Or, on avait bâti comme un temple d'amour, près d'un bassin dans l'ombre habité par un cygne, un théâtre en treillage où grimpait une vigne. Un cintre à claire-voix en anse de panier, cage verte où sifflait un bouvreuil prisonnier, couvrait toute la scène, et sur leur gorge blanche, les actrices sentaient errer l'ombre des branches. On entendait au loin de magiques accords, et tout en haut, sortant de la frise un mi-corps, pour attirer la foule aux lazis qu'il répète, le blanc Pulcinella sonnait de la trompette. Deux faunes soutenaient le manteau d'Arlequin. Trivelin leur riait au nez comme un faquin, parmi les ornements sculptés dans le treillage. Colombine dormait dans un gros coquillage, et quand elle montrait son sein et ses bras nus, on eût cru voir la conque et l'on eût dit Vénus. Le seigneur Pantalon, dans une niche à droite, vendait des limons doux sur une table étroite et criait par instant « Seigneur, l'homme est divin, Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin. » Scaramouche, en un coin, harcelait de sa batte le tragique Alcantor, suivi du triste Arbate. Crispin, vêtu de noir, jouait de l'éventail, perché, jambes pendantes, au sommet du portail. Carlino se penchait, écoutant les aubades, et son pied ébauchait de rêveuses gambades. Le soleil tenait lieu de lustre. La saison avait brodé de fleurs un immense gazon, vert tapis déroulé sous main groupe folâtre. Rangés des deux côtés de l'agreste théâtre, les vrais arbres du parc, les sorbiers, les lilas, les ébéniers qu'avril charge de falbala, de leurs sèves embaumées, exhalant les délices, semblaient se divertir à faire les coulisses. Et pour nous voir, ouvrant leurs fleurs comme des yeux, joignaient au violon leurs murmures joyeux. Si bien qu'à ce concert gracieux et classique, la nature mêlait un peu de sa musique. Tout nous charmait. Les bois, le jour serein, l'air pur, les femmes tout amour, et le ciel tout azur. Pour la pièce, elle était fort bonne, quoique ancienne. C'était nonchalamment assis sur l'avant-scène, Pierrot qui haranguait dans un grave entretien un singe timbalier à cheval sur un chien. Rien de plus, c'était simple et beau. Par intervalle, le singe faisait rage et cognait ses timbales, puis Pierrot répliquait, écoutait qui voulait. L'un faisait apporter des glaces au valet, l'autre, galant drapé d'une cape fantasque, parlait bas à sa dame en lui nouant son masque. Trois marquis attablés chantaient une chanson. Thérèse était assise à l'ombre d'un buisson. Les roses pâlissaient à côté de sa joue, et la voyant si belle, un paon faisait la roue. Moi j'écoutais, pensif, un profane couplet, que fredonnait dans l'ombre un abbé violet. La nuit vint, tout se tut, les flambeaux s'éteignirent, dans les bois assombris les sources se plaignirent. Le rossignol, caché dans son nid ténébreux, chanta comme un poète et comme un amoureux. Chacun se dispersa sous les profonds feuillages. Les folles en riant entraînèrent les sages. L'amante s'en alla dans l'ombre avec l'amant, et, troublé comme on l'est en songe vaguement, il sentait par degrés se mêler à leur âme, à leurs discours secrets, à leurs regards de flamme, à leur cœur, à leur sens, à leur molle raison, le clair de lune bleue qui baignait l'horizon. L'enfance. L'enfant chantait, la mère au lit exténuée agonisait, beau front dans l'ombre se penchant, la mort au-dessus d'elle errait dans la nuée, et j'écoutais ce râle et j'entendais ce chant. L'enfant avait 5 ans et près de la fenêtre, ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit, et la mère à côté de ce pauvre doux être qui chantait tout le jour, toussait toute la nuit. La mère alla dormir sous les dalles du cloître, et le petit enfant se remit à chanter. La douleur est un fruit, Dieu ne le fait pas croître sur la branche trop faible encore pour le porter. Heureux l'homme occupé de l'éternel destin. Heureux l'homme occupé de l'éternel destin, qui, tel qu'un voyageur qui part de grand matin, se réveille, l'esprit empli de rêverie, et dès l'aube du jour, se met à lire et prie. À mesure qu'il lit, le jour vient lentement et se fait dans son âme ainsi qu'au firmament. Il voit distinctement à cette clarté blême des choses dans sa chambre et d'autres en lui-même. Tout dort dans la maison. Il est seul, il le croit, et cependant fermant leur bouche de leurs doigts, derrière lui, tandis que l'extase l'enivre, les anges souriants se penchent sur son livre. Unité. Par-dessus l'horizon aux collines brunies, le soleil, cette fleur des splendeurs infinies, se penchait sur la terre à l'heure du couchant. Une humble marguerite éclose au bord d'un champ, sur un mur gris croulant parmi l'avoine folle, blanche épanouissait sa candide auréole. Et la petite fleur, par-dessus le vieux mur, regardait fixement dans l'éternel azur le grand astre épanchant sa lumière immortelle. « Et moi, j'ai des rayons aussi, lui disait-elle. »